Et tournez dans vos Bibles, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, notre Nouveau Testament, à la page 227. Colossiens 1, les versets 12 à 20, sera notre lecture ce matin, à la page 227. Nous écouterons cette lecture, Colossiens 1, 12 à 20, après avoir prié. Prions d'abord ensemble. Louange à toi, Seigneur, parce que nous pouvons ce matin à nouveau écouter ta parole. Elle sera lue, elle sera expliquée. Tu veux qu'elle soit appliquée dans nos vies. Tu veux nous rendre de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons donner toute la gloire à ton nom. Tu veux aussi, ta parole nous le dit, nous faire goûter un bonheur unique, ce bonheur de vivre en toi, de demeurer en toi. Nous prions ensemble que l'écoute de ta parole maintenant nous fortifie, nous affermisse, nous dispose, chacun d'entre nous ici, à vouloir vivre de plus en plus près de toi, dans l'obéissance, dans cette union joyeuse et sainte et lumineuse. Fais-nous grâce, Seigneur, nous nous mettons à ton écoute. Fais-nous du bien, nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutons donc cette lecture ensemble, Colossiens 1, les versets 12 à 20. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Qui est-il? Qui est celui qui nous accorde la chose la plus précieuse au monde, la rédemption, le pardon des péchés dont nous parle Colossiens 1, 14? En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En lui. En qui? En celui qui est, disons, décrit d'une certaine façon dans les versets 15 à 20. Nous avons, dans ces versets 15 à 20, des caractéristiques uniques de notre Sauveur, du Fils de Dieu, qui nous montrent à quel point lui seul peut nous procurer le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, en 2019, quand on parle d'un Sauveur unique, qui est le seul qui peut sauver, on se fait traiter d'intolérant, d'étroit d'esprit ou d'arrogant. Au Musée canadien des droits de l'homme à Winnipeg, il y a une série de plaques à l'honneur des grands personnages de l'histoire. Il y a une plaque sur Gandhi, une plaque sur Mahomet, une plaque sur Nelson Mandela et d'autres. Et il y a une plaque sur Jésus, qui est considéré comme un être humain, ayant réellement existé. Un enseignant, c'est écrit, le personnage principal du christianisme, mais il est mis avec d'autres êtres humains qui sont considérés comme des personnes qui ont essayé, dans l'histoire de leur vie, dans l'histoire du monde, de faire du bien, de faire quelque chose. Et on peut retirer d'une telle impression que, finalement, Jésus n'avait pas un message trop différent des autres messages véhiculés par diverses autres personnes dans le monde. Mais ce que nous allons voir ce matin dans les versets 15 à 20 est extrêmement important. Nous allons regarder les caractéristiques, si vous voulez, uniques, spéciales, qui sont à Jésus-Christ seul et qui lui permettent de nous procurer la rédemption, le pardon des péchés, comme nous l'avons chanté tantôt, ton don suprême. Hein, c'est le cadeau par excellence du Seigneur pour nous, le pardon des péchés. Regardons ces versets. Qui est celui en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés? Premièrement, le début du verset 15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Dieu seul révèle Dieu et Dieu a décidé de se révéler à nous en son Fils. C'est une grâce. Il aurait pu rester caché et ne pas se révéler à nous, mais il se révèle à nous en son Fils. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus est celui qui, en quelque sorte, nous rend Dieu visible. Aucune autre créature, aucune créature ne pouvait rendre Dieu dans toute sa gloire, sa puissance, sa sagesse, sa bonté, son amour. C'était impossible. L'Évangile de Jean nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dieu, le Fils unique, a fait connaître Dieu. » Vous pourriez dire, « Oui, mais nous, les êtres humains, on est aussi à l'image de Dieu ou une image de Dieu. » Oui, mais quelle sorte d'image de Dieu? Une image qui est gâchée, en quelque sorte, bousillée depuis la chute. Il n'y a aucun être humain qui est une image parfaite de Dieu. C'est impossible. Mais Jésus-Christ, lui, est l'image parfaite, absolue, précise de Dieu. Jésus a dit à Philippe, son apôtre, en Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Ça implique que Jésus est Dieu. Hein? C'est ça que ça implique. Il n'est pas une simple créature, il est dans une classe à part, complètement à part. Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela n'ont jamais prétendu être l'image parfaite de Dieu. Hein? Qui est celui en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés? Deuxièmement, il est le premier-né de toute la création. C'est ce que nous dit la deuxième partie de notre verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Ces mots-là ne signifient pas que Jésus-Christ a été créé ou qu'il est le premier créé ou quelque chose du genre, mais ça signifie qu'il est le Seigneur de la création, le plus haut placé, celui qui la domine, qu'il est en réalité le Créateur. Et c'est le contexte de ce verset qui nous permet d'arriver à cette conclusion-là. Regardez bien le verset 16 et comment il commence. « Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. » Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé le premier-né de toute la création? C'est parce que tout a été créé par lui dans les cieux et sur la terre. S'il y a quelque chose de clair, c'est que quelqu'un qui a été créé ne peut pas créer, tout créer. C'est impossible, bien sûr. Et ici, on voit l'apôtre Paul qui est inspiré de Dieu et qui nous dit que la création dont il est question ici ne se limite pas à quelques items, mais que Jésus a tout créé, tout ce qui existe, pas quelque chose, certaines choses, mais toutes choses, tout ce qui existe. C'est exhaustif, il n'y a pas d'exception dans ce que Paul nous apprend ici. Tout a été créé par lui et pour lui, hein, ça signifie que le Fils de Dieu, notre Sauveur, c'est le grand Créateur de tout ce qui existe. Il est distinct de la création. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Il occupe la suprématie, la souveraineté au-dessus de tous. Et regardez bien, il dit, Paul, que Jésus-Christ a tout créé pour lui. Il nous a créés, il vous a créés pour lui. Dans un certain sens, On devrait faire attention, dans un certain sens, quand on dit que Jésus est venu pour nous, oui, mais il nous a mis, il nous a créés pour lui. Et c'est une donnée dans la Bible qu'on retrouve aussi en Romains 11 qui mérite toute notre méditation, notre réflexion dans la prière. Nous sommes portés parfois à avoir des pensées trop tournées vers nous, alors que cette parole nous retourne vers le Christ Jésus qui est venu, oui, sur la terre pour nous sauver, pour nous aimer, bien sûr, oui, il n'y a pas de doute là, mais quand même, c'est pour lui, c'est pour sa gloire, hein, c'est pour son honneur en quelque sorte. Il nous a créés, il nous a sauvés pour lui, pour qu'on vive pour lui, pour qu'on vive pour sa gloire. Autrement dit, son incarnation, sa venue parmi nous n'était pas une espèce de plan B que Dieu aurait changé à dernière seconde parce que les choses ne se sont pas vraiment produites comme il aurait espéré au début. Non, 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 pas du tout, mais de toute éternité, Dieu avait ce grand plan. Et ce plan était de faire en sorte que nous puissions vivre pour le Christ Jésus. Parfois, il y a des chrétiens qui s'achètent une plaque d'immatriculation, c'est écrit dessus « Jésus est mon copilote ». Ce n'est pas nécessairement un grand compliment que nous faisons à Jésus quand on l'appelle notre copilote. Souvent, nos pensées sont trop anthropocentriques sur l'homme, centrées sur l'homme. Bien sûr qu'il y a une place dans la Bible et dans la vie chrétienne pour l'humanité. Bien sûr, on lit les psaumes, puis les psaumes sont remplis de réflexions personnelles et d'émotions personnelles. Il y a une place, c'est certain. Mais de façon générale, nous devrions mettre l'emphase d'abord et avant tout sur Dieu. Notre vie doit être plus théocentrique, centrée sur Dieu. Je pense que c'est une chose qui se dégage de cette parole ici de l'apôtre Paul. Tout a été créé pour lui. Vous voyez bien dans ces mots-là que Jésus-Christ est dans une classe à part, n'est-ce pas? Il n'est pas comme les autres. Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela n'ont jamais prétendu, n'ont jamais dit qu'ils ont créé toute chose pour eux. Bien sûr que non. Qui est celui qui nous apporte la rédemption, le pardon des péchés? Regardons en troisième lieu le verset 17. Qui nous dit que Jésus-Christ est avant toute chose et tout subsiste en lui. L'univers a été créé et organisé par Jésus-Christ. Autrement dit, il y a eu un moment où l'univers n'existait pas. Mais il n'y a jamais eu un moment où Jésus-Christ n'existait pas. Il est avant toute chose. Encore ici, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, exalte la personne de notre Sauveur. Celui que nous appelons Jésus n'est pas venu au monde dans les moments où l'apôtre Paul écrivait son épître aux Colossiens, mais il existait de toute éternité. Lui-même, Jésus, a dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Nous n'existions pas, nous, il y a 100 ans. Jésus parlait et nous apprenait qu'il existait, lui, des milliers d'années avant son époque, alors qu'il était physiquement sur la terre. Il est avant toute chose. Il est éternel. Et l'apôtre Paul ajoute, tout subsiste en lui. Tout ce qui existe, tout l'univers est tenu par Jésus, est maintenu par Jésus, dans une cohésion. C'est lui qui soutient tout, qui maintient tout. Il préserve toute chose par sa puissance souveraine, par sa force divine. Si, comme créateur, il retirait sa main, tout deviendrait chaos, néant. Tout s'effoirait, comme on dit, mais par sa puissance souveraine, c'est lui qui maintient toute chose. Tout subsiste en lui. Quelle réalité merveilleuse, Paul souligne ici. Jésus imprime à toute la création une unité, une solidarité qui fait que c'est un cosmos plutôt qu'être un chaos. C'est grâce à Jésus. Si parfois dans votre propre existence, vous avez l'impression que tout votre monde intérieur est en train de devenir chaotique, confiez-vous donc en ce grand Sauveur qui maintient tout, en qui tout subsiste, il va pouvoir vous secourir, c'est certain. Vous voyez bien que Jésus-Christ est Dieu, il est dans une classe à part, il n'est pas comme les autres, n'est-ce pas? Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela et tous les autres n'ont jamais prétendu qu'ils existaient avant toute chose et qu'en eux subsistait tout, quelque chose du genre. Pas du tout. Jésus est vraiment à part. Qui est-il celui qui nous apporte la rédemption, le pardon des péchés? Quatrièmement, le verset 18 nous dit que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Jésus est le chef de l'Église, c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a fait progresser, c'est lui qui la protège, c'est lui qui assure son développement, c'est son Église à lui. Les papistes disent que l'Église serait sans chef s'il n'y avait pas de pape. L'apôtre Paul n'octroie pas cet honneur. Même aux anges, et la Bible nous apprend que c'est Jésus-Christ qui a la primauté, c'est lui la tête de l'Église, c'est lui le chef de l'Église, c'est lui qui est la tête du corps. Et donc, pour ceux qui font partie de son Église, quel bonheur d'avoir ce privilège, d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme chef. C'est lui qui peut enlever toute culpabilité. Il s'est acquis cette Église, dit Actes 20, 28, par son sang. C'est lui qui peut faire disparaître toutes nos fautes, nous purifier de toute méchanceté. C'est lui qui est notre sauveur précieux. Ceux qui ne veulent pas faire partie de son Église ou ceux qui se détachent de son Église se retrouvent dans un désert épouvantable. Vous voyez bien ici encore que Jésus-Christ est vraiment dans une classe à part. Il n'est pas comme tous les autres, n'est-ce pas? Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela et tous les autres n'ont jamais prétendu, n'ont jamais dit qu'ils étaient la tête, le chef, le commencement de l'Église, jamais de la vie. Jésus, tout à fait différent. Qui est celui en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés? Cinquièmement, le verset 18 nous dit que Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Sans la résurrection de Jésus-Christ, personne d'autre ne ressusciterait. La résurrection de Jésus marque le début d'une nouvelle création. Ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir, Jésus inaugure l'ère nouvelle tant annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il fonde une nouvelle humanité qui vient remplacer cette vieille humanité perdue en Adam. Sa résurrection est une anticipation et une promesse de la résurrection de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui vivent en lui. Avec sa résurrection, Jésus a la prééminence sur tous. Il dépasse tous. Le premier-né d'entre les morts, le pionnier, l'inaugurateur, celui qui domine la mort, qui est le Seigneur sur la mort. Je vous rappelle ces belles paroles de Jésus en Apocalypse 1, 18. « Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. » J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle consolation pour tout cœur croyant. La mort, c'est ce que redoute le monde entier. Et voici notre Sauveur, qui est le Seigneur et qui console son peuple par ses paroles. Vous voyez bien à quel point le Fils de Dieu est dans une classe à part, n'est-ce pas? Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela et tous les autres n'ont jamais dit ou prétendu qu'ils ont vaincu la mort, sont toujours morts. Qui est celui en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés? Sixièmement, le verset 19 nous dit que Jésus-Christ est la plénitude de Dieu, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Si vous avez votre Bible toujours ouverte, Regardez Colossiens 2, les versets 9 et 10, qui parle de notre Sauveur. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Toute la plénitude de la divinité. Notre Sauveur n'est pas presque Dieu, il est Dieu. Jésus n'est pas moins que Dieu, il est Dieu. L'apôtre Paul nous dit, il a plu à Dieu. C'était le plaisir de Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Jésus possède la totalité des attributs, des pouvoirs divins, tout ce que Dieu veut nous communiquer par lui. Quel encouragement pour nous à puiser jour après jour dans cette plénitude qui se trouve en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, pour notre vie, pour notre salut, puisque Dieu a décidé, l'a décrété de nous communiquer à travers lui tout ce dont nous avons besoin. C'est comme si Dieu nous dit, « Hors de mon Fils, il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir la rédemption, le pardon des péchés, le secours. » Vous voyez bien que Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas une personne comme un autre, hein? Il est dans une classe à part. Gandhi, Mahomet, Nelson Mandela n'ont jamais prétendu, on n'a jamais cru non plus qu'ils avaient en eux la plénitude de Dieu. Jésus dans une classe vraiment à part. On ne peut jamais exagérer sa grandeur, sa prééminence sur tous dans l'histoire. Fait en sorte que Jésus-Christ est digne de notre amour, digne de notre confiance. Nous ne pouvons jamais exagérer tout ce que nous lui devons. Dans notre passage de ce matin, il y a une autre caractéristique de notre Sauveur au verset 20, mais je la garde pour la semaine prochaine. Ce que nous avons vu ce matin, je reconnais que c'est une grosse bouchée, n'est-ce pas? Nous avons vu beaucoup de grandes doctrines bibliques très importantes, mais ces choses-là ne doivent pas nous laisser dans l'indifférence avec un haussement d'épaules, bof. Au contraire, nous venons de voir très brièvement quelques versets de la parole de Dieu parmi les plus profonds, les plus riches. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui décrivent les gloires du Christ Jésus, mais ce texte ici en est un par excellence. Et ces vérités que nous avons vues devraient être imprimées en nous, dans nos cœurs, dans notre mémoire. Elles devraient être comme inscrites dans notre ADN spirituel pour qu'elles puissent produire dans nos vies des changements à la gloire de Dieu. Le Christ Jésus est la cause, le centre, le but de tout ce qui existe. Tous les desseins des dieux s'orchestrent en fonction de Jésus-Christ. Ces affirmations débouchent sur des applications concrètes. J'en ai soulevé quelques-unes. Je termine en soulevant deux. Premièrement, Jésus-Christ doit être au centre de toute doctrine saine, de toute pratique acceptable et de toute expérience chrétienne authentique. Tout ce qui rend, ce qui tend à rendre inférieur le Fils de Dieu, à ce que Dieu déclare de lui dans sa parole, est trompeur et doit être rejeté. Tout ce que nous pouvons entendre, les mouvements, les enseignements, les philosophies, les idées qui nous sont proposées et qui font en sorte que le Fils de Dieu est inférieur à ce que Dieu dit qu'il est dans sa parole, nous devons rejeter ces choses-là. Tout est centré sur Jésus-Christ. C'est comme une clé que nous avons ici ce matin pour évaluer tout ce qu'on peut nous proposer. Est-ce que Jésus-Christ est au centre? Est-ce qu'il est le but? Est-ce que cette idée-là est fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu sur la suprématie de Jésus-Christ? Le thème de tout l'épître aux Colossiens, c'est la suprématie de Jésus-Christ. Pourquoi chercherions-nous ailleurs quand Jésus, ce dont nous avons besoin, en lui seul se trouve le pardon des péchés, la rédemption, et ce pardon des péchés est reçu par la foi en Jésus-Christ? Deuxièmement, Jésus-Christ mérite Il mérite d'avoir la première place dans nos vies. La fin du verset 18 dit qu'il doit être en tout le premier. En tout le premier. En tout Est-ce qu'il est le premier dans notre vie, en toutes choses? Ce majestueux Fils de Dieu est-il prééminent dans nos vies quotidiennes? Répondre à ça, évidemment, ça nous plonge dans une certaine honte, parce qu'on doit reconnaître que bien souvent, il y a toutes sortes de choses méprisables qui passent bien avant lui, n'est-ce pas? On doit le reconnaître. Des convoitises passent avant lui. On désire plus telle vanité que lui. Quand nous péchons, est-ce que nous ne donnons pas la prééminence à Satan? Évidemment, nous soupirons, nous désirons qu'il soit en tout le premier dans notre vie. Et si nous nous rendons compte que nous laissons passer bien avant lui nos ambitions égoïstes, nos mauvais désirs, comme je l'ai mentionné tantôt, ou toutes sortes d'autres choses, eh bien, invoquons son pardon, implorons son secours. Le Saint-Esprit est puissant pour produire dans nos vies des réformes, des transformations, pour que nous puissions donner gloire davantage au merveilleux Fils de Dieu, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Jésus-Christ, oui, mérite certainement la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Vivons pour lui. Demandons-lui souvent, comme Paul demandait en Actes 9, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est une bonne question à se poser chaque matin, même chaque jour. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je vive aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que je puisse vivre à ta gloire et à ton honneur? » Voilà le genre d'application vers lesquelles le Saint-Esprit nous dirige quand nous regardons ce magnifique passage de la parole de Dieu. Amen.